Dada, Bhagavato, Rahato, Dhamma, Dhammo, Dada. Namo, Dada, Bhagavato, Rahato, Dhamma, Dhammo, Dada. Namo, Dada, Bhagavato, Rahato, Dhamma, Dhammo, Dada. Vous venez d'assister aujourd'hui à une courte cérémonie d'offrande de robes aux moines, qui est une tradition très vivante en Birmanie, très répandue, et que je vais essayer de vous expliquer en quelques mots, pour laisser la place ensuite à une conversation libre, à des questions-réponses libres, afin d'éviter de vous donner un enseignement genre enseignement magistral, certainement un peu ennuyeux, peut-être pas très utile pour vous, je veux dire en période de vacances surtout, et vous laisser plutôt poser des questions sur des sujets qui vous intéressent vraiment. Je vais simplement commencer par vous exposer vraiment en quelques minutes la signification de l'offrande des robes aux moines. Il faut séparer deux choses. La première, c'est la nécessité pour un moine, un bhikkhu, de porter des robes. Et la deuxième, c'est tout le côté traditionnel, cérémonieux, parfois même un peu folklorique, que de telles cérémonies peuvent prendre. À l'origine, l'idée est que un moine, dont le mot français finalement est, le mot français est tout à fait adéquat, ça vient du grec monos, qui veut dire seul, un, l'unique, le solitaire. Le moine, celui qui fait le choix de vivre seul, de vivre solitaire, dans une certaine solitude du corps, une certaine solitude de l'esprit, celui qui préfère renoncer à une vie de famille, une vie de travail, une vie de laïc, pour pouvoir se consacrer plus pleinement, plus complètement, à l'étude, à la pratique, à la mise en application de ce qu'il pense être bénéfique pour lui. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un sacerdoce, évidemment, et il ne s'agit pas non plus d'une prise de vœux à vie, simplement celui qui peut, déterminé ou indéterminé, souhaite faire cette expérience de la solitude, du célibat, peut le faire. Et lorsqu'il pense que son expérience est suffisante, rien ne l'empêche, bien entendu, de déposer ses robes et de reprendre une vie de laïc, voire de prendre épouse et de fonder une famille, pourquoi pas. Mais le plus souvent, c'est après avoir vécu une vie ordinaire de laïc, une vie de famille, que certaines personnes, arrivées à un certain âge, une certaine maturité, une certaine réflexion, une certaine maturité dans leur vie, font le choix, une fois que leurs enfants ont grandi, une fois qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont bien peiné, font le choix à ce moment-là d'embrasser la vie de moine. La vie de moine est une vie extraordinairement libérale et paradoxalement très libre. Le moine jouit vraiment d'une très grande autonomie et d'une très grande capacité à choisir lui-même la destination qu'il souhaite donner à sa vie. Dans un cadre, évidemment, mais un cadre qui n'est certainement pas rigide, et dont la seule utilité est de structurer un minimum sa démarche, pour que celle-ci ne soit pas complètement anarchique. Ce cadre, c'est un ensemble de règles dont le développement a été rendu nécessaire à cause du comportement de certains moines qui étaient particulièrement réprouvables. Donc Bouddha a été obligé au fil du temps, au fil de ses 45 années, d'élaborer de plus en plus de règles, parfois des règles vraiment petites, presque insignifiantes, parce que certains moines avaient des comportements qui n'étaient pas tout à fait bien perçus par d'autres moines ou par les laïcs. Mais ces règles ne sont pas une camisole de force, ne sont pas un carcan, ne sont pas une prison. Ce sont simplement des moments d'attention que le moine essaye de développer dans son quotidien. Ce sont des repères, ce sont des balises qui l'aident à se tenir, qui l'aident à être attentif à ce qu'il fait, à être présent à ce qu'il fait, et qui contribuent aussi incontestablement, ou qui devraient contribuer si elles étaient bien appliquées, à présenter à la communauté des laïcs qui soutiennent les moines, qui nourrissent les moines, qui offrent les robes aux moines, qui donnent les médicaments aux moines, qui leur donnent tout ce dont ils ont besoin pour se sustenter, donner à ces laïcs l'image d'une communauté unie, cohérente, structurée et digne de recevoir ces offrandes. Les robes sont parmi les quatre choses dont tout être humain a besoin pour vivre. Des vêtements, premièrement, il a besoin d'un toit, deuxièmement, il a besoin des médicaments quand il est malade, ça vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir, et il a besoin, bien sûr, comme tout le monde, de nourriture. Donc, le moine qui ne s'engage pas dans une activité sociale ou une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins, a besoin pour cela du recours des laïcs qui le soutiennent. Mais les laïcs ne sont pas des serviteurs, ce ne sont pas des larbins, ce ne sont pas des serfs, et les moines ne sont pas des seigneurs, ou je devrais dire, malheureusement, ne devraient pas être des seigneurs. Le moine est celui qui vit dans la solitude, dans la simplicité, dans le renoncement, mais ça ne fait pas de lui un spécimen asocial, reclus, perdu quelque part dans la montagne, égoïste, renfermé sur lui-même, pour autant. Encore que chacun est parfaitement libre de vivre cela comme il l'entend. L'idée est que, en s'abstenant de s'investir dans les activités ordinaires, et je ne mets aucun sens péjoratif dans le mot ordinaire, le moine se rend paradoxalement plus disponible. En consacrant l'essentiel de son temps à comprendre cet enseignement, c'est-à-dire finalement à comprendre ce que j'appelle souvent le schmilblick du monde, quoi. C'est-à-dire à comprendre ce grand machin, comprendre ce monde, comprendre son caractère oppressant, dont il est intimement convaincu de l'existence, et essayer, par les conseils qui ont été donnés par Bouddha, des conseils qui sont plus des conseils d'une hygiène physique et d'une hygiène mentale que des pratiques spirituelles ou des pratiques mystiques, des conseils sains, efficaces, pratiques, très très pratiques, pour arriver à apprendre à gérer ces situations pesantes et pressantes du quotidien, voire même, peut-être, pour arriver ultimement et finalement à s'en libérer complètement. Donc aujourd'hui, vous avez participé à une cérémonie qui, en Birmanie, prend des allures un peu formelles, un peu cérémonieuses, avec des récitations, mais cérémonie qui peut être beaucoup plus informelle, ou tout simplement, lorsqu'on voit qu'un moine porte par exemple des robes vraiment usées, percées, ben, une personne peut de sa propre initiative aller lui acheter une paire de robes, et tout simplement aller lui apporter sans qu'il y ait nécessairement de récitation ou quoi que ce soit. Mais le monde étant ce qu'il est, les peuples étant ce qu'ils sont, il y a un besoin tout à fait naturel, compris d'ailleurs et anticipé par Bouddha, un besoin de la part des communautés, de la part des peuples, de se livrer à des choses qui prennent des aspects plus formels, plus cérémonieux. Et Bouddha, bien entendu, n'a donné aucune contre-indication à la chose. C'est au moine à faire la part des choses. C'est à lui à comprendre ce qui se passe. Donc, nous offrons des robes, avec une courte récitation qui accompagne l'offrande, puis ensuite, comme cela se faisait beaucoup du temps de Bouddha, comme lui-même encourageait qu'on le fasse, et comme cela se fait fort heureusement beaucoup en Birmanie, ceux qui ont participé à cela et qui pensent avoir fait quelque chose d'utile, avoir fait quelque chose de bénéfique, se disent qu'ils ne veulent pas garder ou conserver pour leur petit bien-être personnel le bienfait de ce qui s'est passé. Alors l'idée, c'est de se dire: puisse tout le monde, même ceux qui ne sont pas là, profiter du bienfait qui vient d'être fait. Donc à ce moment-là, on récite une sorte de dédicace en quelque sorte. On essaye d'offrir finalement le mérite, le bienfait de ce don, le bienfait d'avoir supporté la communauté des moines. On veut faire profiter de ce mérite, de ce bienfait à tous les êtres qui peuplent l'univers, même ceux dont on ne soupçonne pas l'existence, peu importe. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous versons comme ça de l'eau dans un bol, que nous récitons lentement. Le texte dit en gros, en deux mots, puissent tous les êtres profiter, puissent tous les êtres bénéficier du bien qui vient d'être accompli par cette offrande. Et les moines ensuite récitent la parole de Bouddha. Ils ne récitent pas des formules magiques, ils ne récitent pas des prières, il ne faut pas attendre des bénédictions de ces récitations, mais pour aider les laïcs, pour aider ceux qui sont là à comprendre, pour les aider à avancer, pour les aider à s'émanciper progressivement de la pression, de la peine du monde, ils leur donnent des bons conseils. Et quoi de mieux finalement que de répéter simplement la parole de Bouddha. Donc il répète mot pour mot, dans sa langue maternelle, dans son dialecte maternel, la parole de Bouddha. Et aujourd'hui, ils ont récité, d'une part, ils ont énuméré les titres de Bouddha, qui est une manière un peu de lui rendre hommage, qui est une manière de le remercier d'avoir eu la bonté de nous communiquer cet enseignement et l'intelligence de découvrir ce qu'il a découvert. Et ils ont récité aussi une parole de Bouddha dans laquelle il encourage vraiment les êtres à pratiquer la bonté, la bienveillance, toujours en toutes circonstances et en tout lieu. Il encourage les êtres à développer des pensées de bonté à l'égard de tous les autres. En fait, pas seulement à l'égard de tous les autres, mais à l'égard de soi aussi. C'est-à-dire finalement à l'égard de tous les êtres. Puissent tous les êtres, qu'ils soient éloignés ou proches, qu'ils soient grands ou petits, visibles ou invisibles, qu'ils soient nés ou à naître, puissent-ils tous être en bonne santé, puissent-ils tous être heureux, puissent-ils tous être affranchis de la peine. Voilà en gros comment se passe ce genre de cérémonie à laquelle nous avons participé. Donc maintenant, je vous invite, si vous le souhaitez, si vous avez des questions à poser, elles sont les bienvenues. Que je me pose parfois. Mais la différence, c'est qu'elle ne m'intrigue plus. Ben, me concernant, ça s'est fait un peu par hasard, en fait. Ça s'est fait un peu par hasard. Et bon, c'est parfois quand on découvre cet enseignement. En particulier quand on le découvre dans son aspect pratique, ça peut nous donner une inspiration en fait. Bon, c'est comme beaucoup de choses, on se dit on a trouvé sa voie quoi. Mais comment expliquer ça, hein? On a trouvé sa voie et voilà. On comprend, on sent quelque chose dans cet enseignement. Et quand on essaye de le mettre en pratique surtout, on voit ce qui se passe. On voit ce que ça fait. Et tant que c'est comme tout, tant que ça va mieux, on s'y tient. Que je suis moine et de surcroît en Birmanie, ça fait maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans. Bouddha donne quand même des éléments de réflexion. Et essentiellement, il nous invite à essayer de prendre conscience en fait de ce que lui appelle la réalité, et éventuellement d'y réfléchir, d'arriver à la comprendre, à la percevoir, pour arriver à s'affranchir de la peine que provoque une incompréhension. Parce que pour lui, au départ, le problème est essentiellement un problème de compréhension. C'est le contraire. C'est moi qui ne comprenais pas les autres. C'est une recherche de la compréhension un sens beaucoup plus large, pas seulement la compréhension des autres, mais la compréhension du monde en fait. Une fois de plus, en Birmanie, oui, ça a pris des proportions. C'est tellement ancré dans le pays maintenant, c'est devenu même une religion d'État. Ce qui est surprenant, mais c'est comme ça. Ben, ça dépend après, une fois de plus, c'est chacun. Après, c'est chacun. L'idée de Bouddha dit au départ, reprenant inaugurant cet adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc pour lui, l'idée, c'est de commencer déjà à faire un certain travail sur soi. Et une fois qu'un certain travail sur soi a été fait, à ce moment-là, en faire profiter son entourage immédiat. Et ensuite, en faire profiter ce qu'il appelle le monde, mais pas le monde dans le sens la société des nations, quoi. Le monde dans le sens, ce qu'on appelle au sens large, la création, quoi. Donc après, c'est chacun selon ses affinités, selon ses habitudes, selon ses coutumes, selon beaucoup de facteurs, certaines personnes vont consacrer le plus clair de leur vie à enseigner. Elles vont beaucoup circuler pour essayer d'enseigner. D'autres personnes vont préférer l'aspect contemplatif, essayer d'avoir une vie plus contemplative, basée sur la méditation, sur le recueillement, l'absorption sur soi, qui est une chose que Bouddha dit être très bonne aussi. Et d'autres personnes vont essayer de s'engager sur la voie de la compréhension, qui n'est pas du tout la voie de la méditation en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et qui est cet entraînement, on pourrait dire cet entraînement final que Bouddha a glissé dans son enseignement, qui selon lui est la phase terminale en fait, si je puis dire, de ce qu'il appelle la libération. Donc certaines personnes vont essayer de suivre cet entraînement-là, vont le considérer comme ça pour la priorité. Pour Bouddha, ça devrait être la priorité. Et une fois que ces personnes-là ont développé une certaine vision, quand je dis vision, je veux dire compréhension. À ce moment-là, plusieurs choses sont possibles, ou bien elles vont essayer de faire partager leur expérience et montrer aux autres, ou bien selon si elles ont atteint un détachement vis-à-vis du monde qui est tel qu'elles elles préfèrent vivre vraiment en solitaire dans une grotte, sous un arbre, pour le restant de leur jour. Certaines personnes vont se consacrer à la mémorisation de la parole de Bouddha. Certaines personnes mémorisent l'intégralité qui représente un volume assez considérable. Chacun le vit comme il le veut. C'est un peu un mélange de tout ça. Dans un pays comme la Birmanie, il y a le besoin religieux, qui est un besoin quand même assez universel, qui est un besoin qui va diminuer avec l'introduction de la télévision, je présume. Et il y a la tradition, le poids de la tradition. Les enfants doivent saluer les moines, etc., etc. Donc ça, c'est la tradition, comme c'est valable dans tout pays. Ça aussi, ça va certainement s'alléger avec les McDonald's et les Walt Disney. Et puis il y a ceux qui essaient d'aller un peu plus loin et qui lisent l'enseignement, quoi, qui écoutent les moines pour savoir, après tout, derrière tout ce... D'ailleurs, tout ce fatras, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une substance, quoi? Donc certaines personnes vont faire la démarche d'aller un peu plus loin. Et en Birmanie, elles sont assez nombreuses encore. Ils n'ont pas 5 ou 6 ans, hein. Oui, ils ont au moins 10 ans. Hein. Oui, mais la Birmanie, ça trompe énormément, oui. À chaque fois que je demande l'âge à un petit, il a toujours... 4-5 ans plus que j'imagine, je peux savoir à chaque fois. Il y a plusieurs cas de figure. Bah, la société birmane est une société asiatique, traditionnelle, où on a encore le schéma de figure où c'est quand même plutôt les parents qui choisissent pour les enfants. Et pas tant qu'on ne pourrait s'imaginer, mais quand même l'influence est assez importante. Même jeune adulte, un enfant ne fera pas vraiment ce qu'il veut, s'il n'a pas au moins l'avis de ses parents. Donc dans certains cas, c'est un peu les parents qui souhaitent mettre un enfant au monastère, qui souvent d'ailleurs ne s'en plaindra pas. Souvent, il veut rester après, parce qu'une fois qu'il grandit, on lui demande son avis quand même, est-ce qu'il veut y rester, est-ce qu'il souhaite pas y rester. Si on a affaire à une famille pauvre, on demandera moins son avis, parce qu'on souhaiterait qu'il aille travailler au champ. On souhaiterait qu'il aille travailler. ça dépend de plusieurs facteurs en fait. Mais c'est pas du tout la prison, l'obligation absolue, tu choisis pas. Enfin, disons, pas totalement. Bah oui, ça, c'est le rôle principal, c'est de les structurer, de les discipliner et de leur apprendre effectivement les bases de la lecture, de l'écriture. Et c'est vrai que, en particulier dans le milieu rural, c'est le rôle que jouent les monastères. Mais maintenant, en Birmanie, il y a des écoles publiques pratiquement partout et qui sont fréquentées par la majorité des enfants maintenant, mais qui ne sont pas gratuites. Donc les familles... ils ne sont pas chers, mais pas gratuites. Il y a des familles pour lesquelles cette somme d'argent n'est pas disponible. Donc les enfants vont mendier. Ou bien, ils vont mendier dans les monastères d'ailleurs. Et puis vers l'âge de 10-12 ans, ils les mettent au travail quand il y en a. Bah, surtout quand il y a les récoltes, tout ça. Là, beaucoup d'enfants travaillent aussi. Enfin, on est loin de l'exploitation, de l'esclavage des enfants du Pakistan. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et pour les familles pauvres, c'est toujours plus difficile. Hein. Pour les familles plus aisées hésiteront peut-être plus facilement à mettre un enfant au monastère. Elles préféreront qu'il fasse des études pour avoir une bonne profession. Par exemple, un métier très recherché en Birmanie, c'est guide touristique. Non, totalement indépendant. Totalement indépendant. Non. L'idée de Bouddha avec ça, c'était au contraire de libérer et non pas d'enfermer. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, surtout quand on vient de tout un passé culturel, tout un passé religieux, de monastères, d'ordres monastiques, etc., on a tendance à transposer, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, c'est tout le contraire. Le but, c'est de libérer. Pratiquement, très peu. Oui. Ça fait partie, si vous voulez, ça fait partie de ce que j'appelle un peu le cadre, dont le but est un peu de discipliner, surtout de discipliner les personnes qui ont une tendance à être un peu anarchiques et qui n'arrivent pas à se tenir elles-mêmes. Au départ, il n'y avait aucune de ces règles. Pendant des années, Bouddha disait simplement à un moine, viens, deviens moine. Bon, et il se retrouvait avec ses robes, il s'embole et puis c'est tout. Donc il n'y avait pas d'heure pour manger, il n'y avait rien. Mais petit à petit, des problèmes sont apparus parce que c'est comme partout... Il y en a qui ont une vocation sincère, mais d'autres, être moine, c'était l'occasion d'avoir la nourriture gratuite. Pas trop difficile à trouver. Pour d'autres, c'était se faire soigner, puisque on est soigné par les laïcs qui nous offrent les médicaments. Et encore maintenant, dans des pays comme la Birmanie ou le Sri Lanka, certains sont moines parce que la vie est un peu moins pénible que travailler dans les champs. Faut le reconnaître. Donc, à cause de ces problèmes-là, il a mis des règles, mais dont le but n'est pas d'enfermer. Dont le but... on va dire, et de structurer une démarche qui doit rester fondamentalement une démarche de libération. D'où le fait que, paradoxalement, à côté de ces règles, le moine est très très libre, en fait. Il jouit d'un extraordinaire degré de liberté. De circuler où il veut, sans contrainte, peu de contraintes. S'il souhaite aller méditer, il va méditer. S'il souhaite étudier, il va étudier. Il est tenu pendant 5 ans, les 5 premières années, de rester avec un aîné. Pourquoi ? Parce que il y en a certains, et dès qu'ils prenaient la robe, ils partaient vagabonder. Et Bouddha a dit non, on est quand même censé suivre une certaine démarche. Alors pour ceux qui sont pas instruits, il a instauré cette règle en disant ben, pendant 5 années, vous devez rester quand même avec un aîné, avec un... Mais vous n'êtes absolument pas obligé de rester avec le même. Si vous n'êtes pas satisfait, vous lui dites je change, je pars, et vous allez voir un autre. Et il n'a pas le droit de vous retenir. Donc c'est quand même très 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 ouvert, très libre comme système. Par exemple, quand vous conduisez une voiture en France, vous avez des centaines et des centaines de règles qui sont infiniment plus contraignantes, qui sont punitives si vous les violez, et dangereuses si vous ne les respectez pas. Pour le moine, il y a beaucoup moins de règles que ça. Il n'y a aucune punition quand elles ne sont pas respectées, et il n'y a pas de danger. Parce que, je dirais physique, pour la santé ou pour la santé psychologique, à tricher, à manger l'après-midi ou à se laisser séduire par un biscuit après-midi ou des choses comme ça, si vous voulez. Il faut bien comprendre un peu c'est assez différent. On est loin. En fait, paradoxalement, les gens ont du mal à comprendre ça. Mais ça, je m'en suis bien rendu compte. Puisqu'avant, j'étais, comme la plupart d'entre vous, j'avais un travail, un logement, un salaire, une voiture. Et je me rends compte maintenant que c'est la vie que je menais avant qui était un enfermement. une aliénation complète, un emprisonnement en fait. Et que la vie que j'ai maintenant, en comparaison, est infiniment plus libérale, plus ouverte, plus... Comment ils peuvent, mais en plus c'est... Bien sûr, ils peuvent venir à n'importe quel moment rendre visite à leur fils ou leur frère, etc. Vice versa, bien sûr. Pour vous dire, un moine n'est pas censé vivre avec une femme, sauf un cas de figure. Oui, lorsque sa mère est très âgée et qu'il n'y a que lui pour s'en occuper. Donc là, il peut s'en occuper, s'il faut la laver, il la lave, s'il faut la nourrir, il la nourrit. Donc, vous voyez, on est loin de l'éclatement de la cellule familiale. Hein. Bien sûr. Il faut le vouloir. C'est l'essentiel des démarches. Alors, à partir du moment où on le souhaite, il faut formuler sa requête auprès d'un moine qui a au moins 10 années d'ancienneté et qui va nous admettre. Donc, il va nous poser une série de 10 questions parce qu'il y a eu des petits problèmes. Donc Bouddha a mis en place 10 questions, notamment est-ce qu'on est malade ? Parce que certains qui sont pauvres font moine juste pendant qu'ils sont malades, comme ça ils vont dire je vais me faire guérir. En plus, généralement ce sont de très bons médecins qui s'occupent des moines, parce qu'ils veulent pratiquer leur charité, leur pratique du don, de la générosité. Donc c'est gratuit, ils leur donnent les bons médicaments. Alors certains se disent tiens, j'ai attrapé une maladie, je vais faire moine. C'est moins cher. Donc on leur demande est-ce que vous êtes malade ? Est-ce que vous êtes actuellement, par exemple, en train de... Est-ce que vous êtes dans une mission pour le gouvernement, par exemple ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec ça ? Des personnes, pour échapper un peu à l'autorité, se sont dit, je vais faire moine, comme ça, ils vont me ficher la paix. Donc, quelques questions comme ça, pour s'assurer que ce n'est pas un peu une triche, quoi, de la part de la personne. Et ensuite, la mission ne pose aucun problème. Bon, il y a une récitation, il récite une phrase comme ça, qui dit, en gros, soyez les bienvenus, puis voilà, c'est tout. En Birmanie. Alors, si c'est une action légale, il est judiciable comme toute personne. D'ailleurs, il est très important de noter une. Ça fait partie des petites phrases que Bouddha a lâchées comme ça, mais qui passent souvent inaperçues. Un jour, il a dit, par rapport à toutes les règles qu'il a énoncées, la règle principale, c'est l'obligation absolue d'un moine de se soumettre à la loi du pays où il se trouve. Bon, il dit se soumettre à l'autorité du roi, etc. Bon, hein, c'est une manière de dire. Et ça, c'est la règle numéro un, si vous voulez. Enfin, c'est la règle qui prime par devant toutes les autres. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, Bouddha dit, un moine ne doit pas sortir la tête couverte. Lorsqu'il sort du monastère, lorsqu'il va dans les zones habitées, il ne doit pas se couvrir la tête. Mais imaginons qu'il y ait une loi en France, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont attrapé des maladies, qui disent, on n'a pas le droit de sortir le crâne rasé dans les rues françaises. Imaginons. Vous devez impérativement porter quelque chose. Alors si c'est la loi, le moine le fera. Il ne contredit pas son règlement, si vous voulez, que de respecter la loi du pays où il se trouve. C'est très important, parce que Bouddha ne veut pas faire non plus de nous des parias, ou des hors-la-loi. À partir de là, l'idée c'est que chacun est censé s'assumer, chacun est censé, comme on dit, être adulte, et on ne va pas jouer à un jeu de dénonciation, de cache-cache, de « je t'ai vu manger un biscuit hier après-midi ». C'est la dénonciation de toute façon, la délation n'est pas de rigueur. Donc chacun est censé assumer ses responsabilités, savoir ce qu'il fait, tout simplement. Parce que, au départ, c'est censé être quand même un acte volontaire. Donc, tant que c'est un acte volontaire, on joue le jeu parce qu'on le veut. Et si un jour on trouve qu'on n'a plus envie, on rend la robe. Et pour rendre la robe, il suffit simplement de l'enlever et de la donner à un moine et de dire voilà, j'arrête là. C'est tout. Si simple que ça. Il y a deux manières de voir les choses. La première manière, c'est de retourner la question en disant est-ce que c'est pas. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est pas rechercher des difficultés inutiles que de s'entêter aussi dans l'existence qu'on mène? Et en plus, la solution de facilité, pour vous donner un ordre d'idée, imaginez-vous, célibataire, aucune activité sexuelle, pas de télévision, pas de radio, pas de cinéma, pas de bande dessinée, pas de distraction, aucune, pas de parfum, pas de boucle d'oreille, pas de montre, pas de cheveux, pas de vêtements, à part le minimum décent. Si vous pensez que ça c'est la solution de facilité,